Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro 800 d'Invino depuis la création de l'émission en 2004. J'appelle que nous sommes la seule émission de radio au monde en langue française, enfin un petit peu anglais avec David d'ailleurs, 100% dédiée aux vins et aux spiritueux. Nous sommes en public et délocalisés au restaurant Bar à Vin Nicolas en plein cœur de Paris au 31 Place de la Madeleine. Vous écoutez d'ailleurs Sud Radio à Antibes sur par exemple 97.9 et on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu d'anniversaire qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec plein d'invités, notamment la comédienne Macha Merrill et puis le chef Éric Briffard. Mon cher David Cobol, bonjour. Philippe Orbach, bonjour. Hélène Pio, bonjour. Bonjour à tous les trois et joyeux anniversaire.
Bonjour.
Bonjour.
Où est le gâteau ?
800 émissions,
Philippe. Est-ce que Pierre Hermé va apporter le gâteau ?
Ben non, on ne sait pas qui est dans l'émission, David, mais c'est pas grave, vous êtes encore anglais. Vous, c'est... Bon, vous aimez le chocolat, vous, Hélène, ou pas ?
J'adore ça.
C'est vrai. Ben, on propose d'accueillir le dieu, le star, la roche
du chocolat. Pape du chocolat.
Pierre Hermé. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Merci d'être parmi nous pour cette 800e symbolique. Alors racontez-nous l'histoire de la gastronomie, de la boulangerie. Vous êtes quoi, une génération en Alsace ? Ça démarre où l'histoire ?
En fait, moi je suis issu d'une famille dont je suis la quatrième génération de pâtissiers, boulangers. Donc je suis né dedans et j'ai dès l'âge de 9 ans, je savais que je voulais être pâtissier. Donc pour moi, c'est
une évidence, quoi.
Tracée.
Vous étiez en Alsace, hein, au départ ?
À Colmar.
À Colmar directement. Alors vous débarquez à Paris à 14 ans chez Gaston Lenôtre. C'est un monsieur que vous respectez énormément, quoi. C'était, vous avez tout appris, non ?
Oui, moi j'ai, enfin tout ce que je sais aujourd'hui, toutes les bases, je les ai apprises là-bas. Et ce que j'ai aussi appris, c'est la qualité, la transmission, ce qu'il faut mettre en place dans le thème d'organisation pour produire de la qualité.
Ouais.
Donc ça a été un enseignement fort et sur lequel je m'appuie encore aujourd'hui, même si ces bases, je les ai fait évoluer, mais ça reste mon socle de connaissances, ouais, et de culture.
Vous avez passé 11 ans chez Fauchon, donc pas très loin ici, Place de la Madeleine, c'était une belle aventure.
Je connais bien la Place de la Madeleine. Ouais. Très belle aventure parce que c'était la première position de chef pâtissier et ça m'a permis d'affirmer un style et de développer mon style. De prendre la distance avec ce que j'avais appris, mais tout, oui, en avant, m'appuyant, oui, sur ce que j'avais appris.
11 ans, belle aventure en tout cas. Et c'est en 92 que vous allez vous émanciper en devenant... Vous trouvez un associé formidable, vous l'aimez votre associé, non ?
Oui, bien sûr.
Bon,
oui,
comment,
oui,
il s'appelle ?
Charles Nati. En fait, on a créé l'entreprise en 97.
97, d'accord.
Et comment on la dirige tous les deux depuis ce moment-là.
Et le positionnement à l'époque, quand même, pâtisserie haute couture, c'était pas gagné, non ?
En fait, il existait des marques de luxe dans le domaine du traiteur, Fauchon, Le Nôtre, Daloyau et compagnie. Il existait des marques de luxe dans le domaine du chocolat, Jean-Paul et Vin, Maison du Chocolat, et dans le domaine de la pâtisserie, on avait estimé qu'il n'y avait pas de marque de luxe, même s'il y avait de très bons pâtissiers. Et puis l'idée, c'était de donner un positionnement haute couture à notre, ouais, à notre pâtisserie, à la fois par l'univers des boutiques, par la qualité de service, par la qualité du produit, et essentiellement par la qualité du produit.
Et Pierre Hermé, donc la première boutique, c'était pas en France, c'était au Japon.
La première boutique à l'enseigne Pierre Hermé a ouvert en 98 à l'enseigne, dans l'hôtel New Otani.
Et pourquoi le Japon ?
Le hasard des rencontres.
Et
parce que, au départ, mon associé et moi, on avait peu d'argent, pour dire pas d'argent.
Vous en avez beaucoup aujourd'hui ou pas ?
On a un peu plus. On a commencé par un magasin sous licence au Japon et ensuite on a continué le développement de l'entreprise pas à pas.
Et aujourd'hui, donc, c'est des magasins et des boutiques en propre ou en franchise ? Comment vous développez ?
Il y a les trois quarts des boutiques en propre et un quart en licence à l'étranger, donc au Maroc, à Macao, à Hong Kong.
Mais dans des épiceries fines, multimarques ?
Non, ce sont des boutiques à l'enseigne Pierre Hermé.
Ah, c'est 100% produit, donc vous ne vendez pas. Si demain il y a un épicier fin à Trouville, vous ne le vendez rien. Non, ça ne marche pas.
En fait, c'est que des boutiques à l'enseigne Pierre Hermé. Et puis, il y a comme ça une douzaine de pays dans lesquels on est présent. Et l'entreprise emploie plus ou moins 700 personnes.
Ah oui, non, c'est une belle réussite en tout cas. L'espace au 86 des Champs-Élysées, comment ça fonctionne, Pierre ?
C'est une collaboration avec la marque de cosmétiques L'Occitane. Mmh. On a eu envie de s'associer.
Vous êtes copains ensemble ?
Oui, bien sûr. Oui. Et en fait, moi, j'ai rencontré les propriétaires de L'Occitane par le fondateur de L'Occitane qui s'appelle Olivier Bossan.
D'accord.
Et c'est comme ça qu'on, chemin faisant, on a eu envie de faire ce projet donc, qui a ouvert il y a un peu plus d'un an.
Et donc, c'est une belle aventure. Il y a aussi des cafés Pierre Hermé, notamment dans le 6e à la gare de Lyon.
Alors, il y a depuis le mois d'août, il y a... un salon de thé qui s'appelle Beau Passage, dans le 7e. Ensuite, il y a un café qui a ouvert au mois d'octobre, qui est en face de la boutique historique de la marque rue Bonaparte. Et puis, dernièrement, un kiosque temporaire à la gare de Lyon.
Dans le 11e.
Dans le 11e, oui.
Mais c'est Lyon, pas grave.
Il y a une gare pas
Alain,
loin.
Non, mais ça, Alain, allons boire un café ensemble de là-bas et
sortons
déguster
du 8e arrondissement,
Pierre,
par exemple.
Voilà,
un jour,
et comme ça, on saura.
Bon, le dernier livre, c'est quoi? C'était une réédition. Vous parlez de Macaron, c'est ça? Un des derniers livres, en tout cas?
C'est une réédition d'un ouvrage que j'ai publié il y a quelques années qui s'appelle Macaron, avec une nouvelle couverture, une édition de luxe. Et puis, sinon, le dernier livre, c'est un livre de pop-up aussi.
Ah oui.
Avec, moi, j'adore l'univers des livres pop-up. Et donc, ça faisait longtemps que je voulais faire un livre de pop-up avec les gâteaux.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année? Donc, c'est développement. Vous êtes dans le capital. Vous êtes quoi de la société? Vous êtes tous les deux associés. Il n'y a pas de fonds d'investissement.
Voilà,
il n'y a personne.
Oui, il y a un fonds,
d'accord.
Voilà, et on continue à développer l'entreprise depuis maintenant plus de 20 ans.
Et vous aimez le bon vin?
J'adore le vin. J'ai plusieurs passions, les parfums, l'art contemporain et puis le vin.
Ouais. Donc, et des régions favorites sur le vin, ou vous êtes un garçon ouvert?
On m'a dit que la Corse était
oui,
la Corse,
j'apprécie, mais en même temps, j'aime bien les vins qui sont bons. J'ai donc, pas de région de prédilection.
Ouais.
Alors, ce que je bois le moins, c'est les Bordeaux, mais j'en bois et j'aime ça. Mais sinon, je suis plutôt Corse, Bourgogne, Alsace, Rhône, Languedoc.
Vous avez une belle cave à la maison?
Oui, j'ai à peu près plus ou moins 2000 bouteilles.
Ah bah c'est pas mal ça. Bah écoutez, finalement, on vient chez vous. Voilà, c'était Hélène Piau.
Bah écoutez, moi je me souviens en tout cas d'accords magnifiques avec vos pâtisseries. Un jour, j'ai fait ce qu'il ne faut pas faire. J'avais un gâteau au chocolat, je n'avais pas du tout les vins qui normalement vont avec. Et du coup, j'ai ouvert un chablis avec et ça marchait sublimement bien.
Un chablis jeune,
enfin, c'était n'importe quoi. Philippe, mais avec un gâteau au chocolat au lait chez vous, j'en garde un souvenir ébloui.
Ouais, et Philippe Orba, vous en pensez quoi? Parce que qu'est-ce qu'on peut associer, Philippe et David, je vous pose la question, au chocolat? Chocolat en général, c'est un mariage heureux ou pluvieux?
Ça dépend des jours.
Ah, ça dépend des jours.
Non, oui. Mais surtout, ce qu'il faut sortir, c'est peut-être du clivage des vins dits de dessert. Parce que les vins de dessert, c'est des vins sucres résiduels. Et finalement, le sucre plus sucre, ce n'est pas toujours le meilleur accord qui soit. Et alors, peut-être que ce jour-là, chez Hélène Piau, le chablis...
Qui avait déjà pris quelques champignons avant, d'ailleurs.
Ça vous vous rappelez du chablis? De quel chablis?
Non, parce que c'était vraiment il y a longtemps. Mais c'était vraiment, un chablis de 3-4 ans à peine. Et vraiment,
ça fonctionnait
super bien.
Moi, j'adore les vins sucrés. Hein. Je suis un fou des vins sucrés. Mais en fait, je ne les bois jamais avec le dessert. Je les bois toujours après ou avant.
Oui.
Et parce que justement, ce que disait Philippe, sucre sur sucre, comme on cherche à désucrer les desserts, ça me dérange un peu. Quoique, parfois, on a des belles surprises quand même, je dois l'avouer. Mais c'est vrai que j'ai une nette préférence pour le thé vert Sencha, le Gyokuro. Et là, du coup, l'amertume du thé révèle le goût des gâteaux.
Ouais,
mais sinon, j'adore les vins sucrés.
Et les Banyuls, les Mori, tout ça, ça fonctionne bien, là,
j'adore
non
ça.
Ça fonctionne en général.
Dernier vin sucré que j'ai goûté, c'est Grenoble de Marie-Thérèse Chapaz.
Ah, c'est magnifique.
En 2014, ouais.
David Cobol, vous en pensez quoi de ce mariage
entre la Petite Arvine?
Oui, Petite Arvine, Grenoble.
Ah, c'est bon ça.
C'est délicieux, délicieux.
David?
Oui.
Vous en pensez quoi? Mariage, chocolat, vin? Vous avez des préférences?
J'ai beaucoup travaillé
même
sur
en dehors de nos frontières, peut-être,
oui.
David?
Alors, j'ai un mariage assez étonnant avec un chocolat noir 75% avec une retsina grecque.
Ah oui.
Donc, ce qui m'a surpris, parce que je l'ai mis un peu à l'aveugle. On a goûté plusieurs vins avec une femme qui fabrique des chocolats. Et ça, c'était remarquable. Avec le chocolat noir, à condition d'avoir 75% de cacao au moins, les vins rouges tanniques fonctionnent très bien aussi. Donc, c'est un autre...
Du coup, il n'y a pas de sucre.
Il n'y a pas de sucre. Et les tanins répondent aux tanins de la fève. Par exemple, une pure fève de cacao, on peut servir un jeune rouge. Après, si on veut le passe-partout, qui vraiment fonctionne avec tous les types de chocolat, que ce soit ganache ou pas, les Mori, Banyuls, Porto, Rivesaltes, Grenat, ça fonctionne sans aucun problème. Une chose peut-être intéressante, alors peut-être la chartreuse, et avec un ganache à l'orange, un vermouth, passé très très bien, à cause de l'amertume dans le vermouth, l'amertume qui est dans l'écorce de l'orange.
Et ça existe, David, un guide, un outil de référence, enfin, si bah, écouté,
connaissance,
dit,
non, radio, mais non, chacun peut expérimenter.
Dans la plupart des ouvrages sur les accords mais et vins, il y a toujours un chapitre assez intéressant. Oui.
Les projets cette année, Pierre-Aimé, qu'est-ce que vous avez comme projet pour 2019-2020? Il y a des choses nouvelles, de nouvelles ouvertures, par exemple, de nouveaux livres aussi, peut-être?
Alors, on va ouvrir avec Jean-Louis Coste un restaurant L'Avenue à New York, dont on va s'occuper des desserts et dans lequel on aura une boutique Pierre-Aimé au 8e et 9e étage du grand magasin Saks à New York.
C'est génial, ça.
Hélène ? Ça, c'est le premier projet de l'année. C'est pas mal.
Ah, c'est génial, ton projet.
Moi, je voudrais savoir si dans les projets, alors pas forcément 2019-2020, peut-être plus tard encore, mais il y a encore des ingrédients que vous n'avez pas utilisés en dessert, des algues complètement dingues, je ne sais pas, des champignons, des poireaux, n'importe quoi qu'on peut imaginer en dessert.
Moi, je découvre tout le temps des choses. Hein, donc, ce que vous dites, c'est pour moi une évidence. C'est-à-dire qu'il y a toujours des ingrédients à découvrir. Là, il y a quelqu'un qui m'a ramené dernièrement des pistaches sauvages.
Ah oui,
j'avais jamais vu ça.
De quelle région?
Ah tiens,
de pistachi.
Je sais pas d'où elle m'a amené ça, de Singapour, un truc comme ça.
Mais c'est comment? C'est bon ça? C'est
tout petit, donc ça a pas beaucoup de goût, mais bon, je me dis tiens, ça existe quoi, et donc du coup, ça permet d'explorer. Donc il y a toujours des ingrédients. Moi j'aime beaucoup la prune japonaise, la prune salée japonaise. Ah oui. Ah oui. Et je me dis qu'il y a quelque chose à faire avec ça.
Quand on fait le liqueur.
Donc à chaque fois, vous réfléchissez sur des nouvelles idées. Merci à tous les quatre. Merci Hélène, merci Pierre-Aimé, David Cobol et Philippe Orbach. On marque une micro-pause. Retour chez Nicolas pour cette 800e en compagnie de deux invités formidables dans quelques instants, Macha Méry et le chef Éric Briffard.
Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Retour au restaurant Bar à Vin Nicolas. Nous sommes à Paris au 31 Place de la Madeleine pour cette 800e émission. Nous sommes délocalisés en public avec une nouvelle invitée. Elle est formidable, Macha Méry. Bonjour Macha.
Bonjour.
Alors, avant de parler, vous avez été la marraine des 80 ans de l'appellation Pouilly. Un petit mot.
Oh, vous êtes très informée, je vois.
Invino sur Radio, ça
t'intéresse. Ah oui, quand même.
Bon. Ah, beaucoup de choses, quoi. Alors, racontez-nous, qu'est-ce que je vous dis? Gérard Oury, c'est pour ça qui, Gérard Oury?
C'est mon premier metteur en scène.
C'était le premier.
On va recommencer à la préhistoire.
L'émission dure 7 heures, non, Macha. On commence par le début.
Moi, j'aime mieux parler de Pouilly que de Oury. Enfin, c'est ce que vous voulez, mais enfin, bon.
C'était une époque. Hein. Alors, racontez-nous.
Alors, comment je suis arrivée à tout
ben
ça
ouais,
c'est ça
mais c'est ça.
Alors, d'abord, j'ai fait une connaissance qui est mon prof. Il est ici
Philippe
présent.
Philippe Forbach.
C'est grâce à lui partie de mes connaissances, qui ne sont pas petites.
Ouais.
Parce que je me suis vraiment intéressée au vin, moi. J'ai même fait Suze-Larousse, vous savez ça?
Ah, très bien,
j'ai
ça.
J'ai fait 3 semaines de Suze.
L'université.
Et c'est extraordinaire. On sort de là, on n'est pas la même personne.
Et pendant 3 semaines, vous étiez là-bas, sérieuse, on apprend le vin.
Dans ma petite cage, avec alors soit les horizontaux, soit les verticaux. Et je vous jure que le nez, on ne sort pas pareil.
Donc on apprend.
On se développe d'une façon extraordinaire. C'était parce qu'on faisait une émission avec Jean-Claude Brialy, qui s'appelait Millésime, qui n'a pas duré d'ailleurs cette émission. Et à chacun de nous, une région. Moi, j'avais choisi les Côtes du Rhône parce que je revenais d'Italie, ça ressemblait beaucoup aux vins italiens, hein, tous ces vins de Côtes du Rhône. Et lui faisait les champagnes, Dormesson faisait les Beaujolais. Non, Pivot faisait les Beaujolais. Enfin bref.
Enfin, Pivot et les Beaujolais, je pense que oui.
Alors c'était formidable parce qu'on passe devant Suze-Larousse, et ça venait d'ouvrir.
Ouais.
Et je me suis dit, mais attendez, faut pas rater ça dans la vie, quand on peut.
Et on trouve 3 semaines, c'est long, 3 semaines, Macha.
Ben, oui, mais c'est vraiment ça le truc. Ouais. C'est que si on entre, c'est comme dans un monastère, n'est-ce pas? Où on a la foi, où on l'a pas.
Ben oui, il y a sœur Hélène Piau qui est d'accord. Quoi.
Absolument, c'est... amen.
Voilà. Et vous dormiez où, là, pas à Suze-Larousse, à côté là?
Non, c'est un très bon hôtel. C'est un internat. Certains élèves vivent là, tout à fait.
Et qu'est-ce que vous avez appris, que vous avez vraiment surpris en disant ça, je savais pas, j'imaginais pas.
Oh ben tout,
il y a autant
tout,
de goût,
tout.
Il y a autant de couleurs.
Bon, alors, si vous voulez, les connaissances techniques, moi je vous ai écouté là tous, là, c'est passionnant. Mais moi, je suis une joyeuse consommatrice. Donc, ce qui m'intéresse, c'est le plaisir. C'est de comprendre mon plaisir. Et je trouve que de comprendre quel effet vous fait un vin, c'est ça le mystère. C'est ça la chose intéressante. Après, maintenant, j'ai un peu viré monocépage.
Monocépage?
Oui.
Et de quelle région? Qu'est-ce que vous aimez?
Avec le temps, vous voyez, justement, le Pouilly fumé, moi, avec le temps, c'est très curieux. On change. On n'est pas les mêmes au cours de la vie. Et ça, c'est très intéressant aussi. C'est comme le goût gastronomique change aussi. Mais les vins, particulièrement. Il y a des choses que j'ai adorées peut-être même par
ignorance.
Les vins
sucrés, par exemple, les vins sucrés.
Bon, bah oui, moi, c'est pas tellement mon truc. Alors, j'aime beaucoup dans ma région, vous savez, je suis un peu sud-ouest, j'ai une maison dans le Gers, Philippe le sait, il m'y a rendu visite, et j'aime beaucoup ces petits vins qu'ils ont inventés depuis pas longtemps, avec les cépages de l'Armagnac. Alors, moi, j'aime bien les trouvailles, comme ça, et j'aime bien aussi les vins de pays, c'est-à-dire des vins qui sont justement pas célèbres, et, excusez-moi, je regarde beaucoup la colonne de droite. Et la colonne de droite, quand un vin coûte 7 euros, il a déjà de bonnes arguments à mon égard.
Des ondes positives, quoi. C'est... Mais c'est important,
et j'apprécie beaucoup les viticulteurs qui arrivent à faire des vins convenables qui coûtent moins de 10 euros.
Vous avez des copains vignerons ?
Bien plein. Plein
les dans le Gers,
les Grassa, les Grassa, toute la famille Tariquet, évidemment. Pelleau, parce que c'est mes grands copains.
Et vous aimez le rosé ou pas ? Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas sensibles.
Parce que pour moi, ce n'est pas un vin, le rosé. C'est,
c'est pas un vin.
C'est un coït interrompu.
Là, on va recevoir beaucoup de mails et d'appels téléphoniques, Pacha.
C'est vrai ou non ?
Le coït interrompu pour symboliser le rosé, je dois dire que je ne verrai plus le rosé de la même façon. Là, Pacha, vous venez de me couper un peu. Pas mal de choses. L'été prochain, j'aurais du mal.
Moi, je suis très inquiet parce que j'adore le rosé.
Mais moi, je trouve que c'est un faux vin.
C'est un grand débat et il y a quand même beaucoup, beaucoup de progrès qui ont été faits sur la production
de rosé. Oui, d'accord.
Aujourd'hui,
il y a une plus grande production.
On le voit un peu différemment.
Mais pourquoi ? Parce que c'est frais et que ça se boit en été, donc c'est lié à des souvenirs de vacances.
Oui, c'est ça. C'est l'émotion.
Ça joue aussi. Et au-delà, c'est vrai que
vous avez une cave à la maison, Pacha, à Paris ?
Bien sûr, bien sûr. Pas à Paris. J'ai une maison à la campagne, ici, pas loin.
Et là, vous avez une bonne bouteille. Vous les aimez. Vous les achetez chez qui ? Alors, sur les conseils de Philippe Orbach, c'est plutôt des très, très bons conseils.
Non, parce que lui, il est trop professionnel. Il ne faut pas écouter les professionnels.
Non, vous avez raison.
Pas écouter il faut savoir s'écouter soi-même.
Il faut s'écouter soi-même. Exactement. Et pour s'écouter, il faut se connaître. C'est comme une psychanalyse, vous savez, le vin. Il faut avoir des notions, quand même, des connaissances, parce que sinon, on dit n'importe quoi. Mmh. Et puis, au bout du compte, il n'y a qu'un seul truc qui compte.
In vino veritas.
In vino veritas. Ouais. Et puis alors, attendez, le lendemain. Hein, parce que moi, je suis très sensible à ce que l'effet que me fait un vin le lendemain. Oui. Et dès qu'il est un peu soufré et que le lendemain, je...
C'est fini. Plus de coït, plus de coït.
C'est terminé. Oui. Mais il faut dire qu'il y a eu des progrès considérables. En l'espace de 30 ans, depuis que je m'intéresse au vin, je trouve franchement que c'est même... C'est même compliqué maintenant, parce qu'il faudrait faire le tour de la France pour tout goûter sans arrêt.
Mais vous avez un autre métier quand même.
Moi, j'ai autre chose à faire. Mais alors, je veux vous raconter une chose amusante. Je viens de terminer une pièce de théâtre. Nous avons joué 4 mois au Théâtre Montparnasse, une pièce de Stéphane Zweig qui s'appelle La légende d'une vie. Et comme on joue longtemps, comme ça, j'ai joué 120 représentations.
120 représentations.
On a décidé de goûter tout ce qui convient avant de jouer, pour voir qu'est-ce qui nous convient le mieux. Alors, tout. La vodka, le Coca-Cola, l'eau, le vin, les Bordeaux, les... Eh bien, vous savez ce qui a gagné ? C'est le vin blanc.
Le vin blanc ?
C'est-à-dire les monocépages, justement. Moi, je sais Pouilly fumé, mais ça peut être aussi... justement, il y a de très bons sauvignons un peu partout. C'est des vins de Loire, souvent. Mais c'est ceux-là qui vous donnent une sorte d'énergie particulière et qui vous... m'attraque pas. C'est-à-dire que ça peut durer 1h30 quand même, le temps du spectacle. Ouais. Les autres, au bout d'une demi-heure, ça y est, tu commences du ramollissement dans les mollets. Tandis qu'avec le vin blanc, non.
Mais donc vous avez goûté 120 différents, 120 présentations.
Dans quelle quantité ? C'est quoi la posologie, machin ?
Alors, attendez. Non, ça, vous avez raison.
Avec modération, toujours.
Pour commencer, toujours, tout peu.
Mais pour tenir 1h30 sur scène.
C'est surtout que pour un vin blanc, il faut qu'il reste frais. Donc, il ne faut jamais servir beaucoup. Je m'énerve toujours quand certains sommeliers ignorants vous mettent des tartines comme ça. Non, il faut très peu de vin blanc. Parce qu'il faut qu'il reste frais. Il faut que le verre lui-même soit frais. Alors ça, j'ai aussi compris ça.
Les projets cette année, quels sont vos projets, Macha, indépendamment de déguster des bons vins blancs avec modération ? Qu'est-ce que vous allez faire cette année ?
Vous avez combien ? 800e, c'est pas assez.
800e, 800 heures.
Il m'en faut encore 3 ou 4 émissions pour que je vous raconte tout. C'est-à-dire, vous savez, je suis en pleine production de toutes sortes. D'abord, le théâtre, mais aussi, j'écris. J'ai d'abord écrit beaucoup de livres de cuisine, qui ont eu un certain succès à une époque.
Joyeuse pâte.
Voilà.
Moi, j'en ris.
Sur le riz. Alors, le riz,
exactement. Ben,
voilà, pour le riz, par exemple, il faut... Le grand risotto italien, ça se fait du champagne. Et même eux, ils prennent des champagnes français.
Hein, ils ne prennent pas les spumanti.
Leur prosecco, tout ça, ça
ne marche pas. Quoi.
Bien sûr, ça ne vaut pas le coup. Et donc, déjà, ça, la cuisine... Moi, j'aime le vin dans la cuisine. J'aime beaucoup... Aussi, j'aime beaucoup les choses cuisinées avec du vin. Mais alors qu'il faut qu'ils disparaissent.
Oui, c'est ça, quoi. Donc, en général, mais est-ce qu'on fait vraiment une meilleure sauce avec un bon vin ? C'est-à-dire que, est-ce que la sauce est meilleure si
mais
le vin est bon ?
On ne déglace pas une sauce simple d'un poulet sans un verre de vin. Et c'est du vin blanc, en général. J'ai viré blanc. Tiens, ouais. Je me m'aperçois. Hein,
non, mais c'est très bien, avec quand même 4 fois blanc, ça. Et pour terminer, Macha, votre meilleure table à Paris, ou le meilleur restaurant, le chef le plus sympa, genre qui n'a pas trop de cheveux, là, c'est qui, par exemple?
C'est qui, vous avez? C'est compliqué, non, ouais. Parce que moi... Oh là là, comme c'est difficile, bon, ce que vous me demandez.
Votre deuxième chef favori, alors le premier, on le connaît, parce qu'on va le savoir en 5 minutes, et le deuxième, c'est qui, alors?
Non, c'est ni premier ni deuxième, moi, c'est... C'est la découverte, et puis c'est toujours meilleur chez moi. Alors qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je préfère rester à la maison et faire la cuisine.
Ça ne va pas faire la fière des chefs, ça.
Allez, une vidéo sur radio avec maintenant Éric Briffard. Donc vous allez quand chez Macha, déjeuner ou dîner là, c'est,
hein. Quand elle veut, parce que je l'aime bien. Elle est dynamique, elle parle du vin formidablement bien. Et puis je pense qu'elle a raison. Tout à chacun, il faut découvrir le vin et se l'approprier. Je pense que ça, c'est important.
Vous aimez le vin, vous, Éric, ou pas?
Ah, bah oui, bah moi je suis né en Bourgogne. À 7 ans, j'étais dans les vignes. J'ai été baptisé au Chablis. Je suis pilier chablisien.
Ouais, et donc c'est vrai que, fier de l'être, quoi.
Oui, puis j'ai bien aimé effectivement la progression qu'il y a pu y avoir dans les 20-30 ans. Il y a eu une vraie évolution, ouais, bon, étant vraiment positif, quoi, dans le Chablis. Ouais. Bon, même s'ils ont multiplié par 10 les vignobles, et puis les vignobles surtout, ouais, parce qu'il y a 40 ans,
c'est bien planté, ouais.
C'est incroyable. Mais finalement, ils ont quand même fait tous un peu les mêmes écoles, mais ils ont une tenue de vin de grande qualité. Et je pense
ça, c'est
qu'ils
la
ont bien progressé.
Maintenant, la technologie a bien progressé. Tout ça, tout a changé. C'est
positivement, hein, on boit mieux, oui, avec des meilleurs vins. Oui, vous avez moins mal à la tête, hein, on a tous moins mal à la tête, et on perd pas ses cheveux. Ah, Eric, alors racontez-nous là, le cordon bleu, là, c'est depuis quand? Depuis 2016,
bah oui, ouais,
ça a été créé quand, le cordon bleu?
Peut-être, voilà, le cordon bleu, oui, après avoir fait le Plaza Athénée,
là,
le
Georges V, partout, là, qu'est-ce que vous êtes parti à la retraite ou c'est quoi?
Non, pas du tout, non, je suis loin d'être à la retraite. Vous savez, le cordon bleu, c'est le premier réseau mondial d'art culinaire et de management hôtelier. Bon, à Paris, c'était peut-être un peu méconnu, mais on est bien là pour remettre en place cette vieille institution de 1895.
Et ça appartient à qui? Il y a des propriétaires, c'est qui alors?
Oui, monsieur André Cointreau.
Donc, donc c'est Cointreau, encore une famille,
ah bon, de la liqueur, grande belle famille qui s'intéresse avec monsieur Jean-Pierre Cointreau aussi.
Mais qu'on recevra bientôt, là, demain d'ailleurs.
Et donc, il y a eu un coup de cœur déjà, de rencontre d'hommes, parce que bon, j'avais beaucoup d'autres projets. Et puis la transmission, ça me parle, le compagnonnage, la transmission, c'est tous les jours, on a des métiers où on transmet. Et puis, je suis allé voir un petit peu le groupe à l'international. Oui. On a 35 instituts à travers le monde actuellement.
Et combien d'étudiants, combien d'élèves, combien de dispensés?
Alors actuellement, dans le monde, on a 20 000 étudiants diplômés par an.
Incroyable. Et combien de Français?
Alors, pour Paris, on n'a pas 20 000 étudiants à Paris, par an, diplômés, mais à Paris, là, on a une très belle rentrée, là, on est très content, on l'a faite avant-hier, une très belle rentrée, on a 63 nationalités différentes.
C'est extraordinaire, c'est extraordinaire.
Et ce diplôme, ça leur donne vraiment une ouverture.
Oui, bon, le cordon bleu est vraiment le
sésame, c'est un sésame international.
Plus que le Bocuse ou tous ces machins-là.
L'Institut Paul Bocuse est plus jeune, déjà, et une très très belle école, hein, de toute façon, alors là, j'ai les copains partout, donc j'ai aucun souci là-dessus. Et puis, c'est comme dans l'hôtellerie. Moi, je suis en compétition avec moi-même, déjà. Donc, ce qui compte aujourd'hui, c'est qu'on va continuer à faire briller cette belle maison et qu'elle soit à la hauteur de ce que M. André Cointreau a fait dans le monde entier. Franchement, il a été précurseur, il y a 35 ans, d'avoir cette vision d'un développement par un manque, un déficit de formation internationale. Ça a démarré à Paris, Londres, New York. Il y a eu beaucoup de très grands chefs qui sont sortis du cordon bleu, Gaston Acourio, hein, 40 restaurants dans le monde. Et tout à l'heure, il y avait Juan Arbelès qui était là.
De toute façon, tout le monde se précipite pour la vie centième de Nino.
Il y a 5 restaurants qui a travaillé avec moi au Georges V et puis il a commencé au cordon bleu.
Oui, vous avez une vie super. Philippe Orbach, pour terminer, vous avez des questions que vous voulez poser à Eric peut-être?
Non, il y a une formation vin également.
Très pertinent. Donc pas de vous, ça, Philippe. Hein.
Très belle formation vin. On est dans les domaines boulangerie, pâtisserie. Et c'est vrai que le vin, vraiment nos étudiants vont dans les vignobles, vont vendanger.
Et de qualité,
vinifient, et on reçoit tous les grands sommeliers.
Bon, merci. Vous êtes juste génial, ne changez rien. Merci, Éric Briffard. Merci également vous, Macha, Meryl. Donc, vous êtes prêtes? On va faire un petit tour au
cordon bleu. Vous venez tous
chez moi. On chez vous, là. Merci, Pierre, mais on y va. Fin de ce numéro 800 de Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr ou sur notre page Facebook Invino. Excellent déjeuner, restez fidèles à Sud Radio et surtout n'oubliez pas, respectez la plus grande des modérations.